Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Labomatique. Lors de la première de la saison au LabFab, j'ai découvert l'existence d'un projet fascinant, Bionico End. Aujourd'hui, rencontre avec l'instigateur de ce projet, Nicolas Huchet, dont je laisse expliquer ce qui se cache derrière ce nom énigmatique.
Le projet consiste donc en la fabrication d'une main robot adaptée pour personnes amputées de la main.
Quelles ont été vos motivations pour faire ce projet ?
Alors, le projet, on va dire, a commencé par une difficulté à acquérir une prothèse nouvelle génération, on va dire, des prothèses de main. Donc c'est des mains, déjà, il faut peut-être que j'explique un petit peu quand même. Ce que c'est qu'une prothèse myoélectrique, c'est une prothèse articulée, donc qui nous permet d'avoir l'usage d'une pince, d'une main normale presque, quand même pas, mais par la contraction des muscles de l'avant-bras. Donc on a un muscle qu'on va contracter pour ouvrir et un autre muscle qu'on va contracter pour fermer. Donc là, par exemple, je peux saisir un verre, tenir des objets, etc. Il y a des nouvelles prothèses qui existent sur le marché depuis 5-6 ans. Ces prothèses sont, on va dire, plus perfectionnées. Elles permettent non seulement d'avoir l'usage d'une pince, de saisir des objets, mais également d'avoir l'index, d'avoir une pince plus précise, ou d'avoir une poignée pour lever une valise. Et ces prothèses-là ne sont pas remboursées par la sécurité sociale. Voilà. Ça, c'est une réalité, c'est comme ça. Et donc, moi, le projet, à la base, il vient un peu de ça, quoi. Il vient un peu de cette difficulté à pouvoir avoir un nouveau matériel, pouvoir évoluer, en fait, me mettre à jour. Et un beau jour, j'ai rencontré à Vivacité l'équipe du LabFab de Rennes, que je suis allé voir, et je leur ai demandé spontanément s'il serait possible de fabriquer une main robot, en fait. Et puis ils m'ont dit que oui, c'était possible, tout à fait, que ça les intéresserait. Et c'est comme ça que ça a commencé.
Et quand a commencé le projet ?
Le projet, il est, on va dire officiellement, il est rentré dans le portfolio du LabFab au mois de février, je pense.
D'accord, donc c'est encore récent, quoi.
C'est encore récent, on s'était rencontré une première fois au mois de novembre et au mois d'octobre 2012. Mm-hmm. Voilà, donc le projet se fait depuis le mois de février.
Et quelles ont été les premières étapes du projet ?
Voilà, donc la première étape, en fait, ça a été, de se dire, bon d'accord, on va faire une main robot pour personnes handicapées. Donc déjà, il faut qu'on trouve une main. Il faut qu'on trouve une main à construire avec l'imprimante 3D. Mmh. La fameuse imprimante 3D qui fait le buzz depuis quelques temps, dont tout le monde parle. Et au LabFab, donc, ils ont des imprimantes 3D. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me suis dirigé vers eux, c'est qu'ils avaient toutes ces machines. Et je me suis dit, bah oui, il est possible de fabriquer plein de choses. Donc on est allé sur un site qui s'appelle Thingiverse, T-H-I-N-G-I-V-E-R-S-E, Thingiverse, sur lequel on a tapé le mot hand, main, et on a eu tout un tas de mains, en fait, qui, plein de conceptions 3D, réalisées par des makers, des hackers, des designers, des concepteurs. Et ces personnes-là, en fait, mettent leur recherche sur ce site. Et ces recherches sont, la plupart du temps, en open source. Mmh. C'est-à-dire qu'on peut télécharger tous les plans de fabrication gratuitement. Donc la première étape, ça a été de trouver une main. Donc on a trouvé la main d'un robot, qui est le robot InMove. I-N-M-O-O-V. Donc c'est un robot en open source, complètement constructible par soi-même à la maison, avec une imprimante 3D. Et nous, on a décidé d'utiliser cette main, parce qu'elle ressemble énormément à une main humaine, elle bougeait tous les doigts.
Donc le but était de créer une main où il y avait la possibilité d'effectuer tous les mouvements d'une main humaine ?
Oui, alors sur les vidéos, on voyait effectivement que le robot bougeait tous ses doigts, quoi. Donc, bah oui, effectivement, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Waouh, si un jour il était possible de faire ça !» Et les photos, ouais, paraissaient vraiment réelles, quoi. Donc on a contacté cette personne. On a découvert qu'il était français et qu'il vivait en France, à Paris. On l'a contacté, on lui a expliqué le projet, qu'on voudrait fabriquer, adapter sa main robot pour une personne amputée, que moi je suis une personne amputée. Et il a dit « Ouais, allez-y, c'est pas la première fois qu'on me contacte pour ça. » Et on est parti, on a dit si on avait besoin d'aide, est-ce que vous êtes là au cas où ? Parce qu'on est débutant, enfin on n'est pas débutant, mais on connaît pas, on n'a pas le génie de cette personne, quoi, de Gaël. Gaël Langevin, il s'appelle. Et donc on l'a invité pour la fête du numérique à Rennes, qui était au mois de juin, qui s'appelait Tu imagines construit. Bah, entre-temps, entre le coup de fil et l'événement, on a téléchargé les plans. La main était complètement imprimée en open source. Ensuite, il y a eu la phase de construction, donc de relier tous les doigts ensemble sur des cerveaux moteurs avec des petits fils, des petites ficelles en fait. C'est vraiment une construction un peu à la maison, genre Lego technique. De mettre des cerveaux moteurs, une carte Arduino, donc c'est cette carte, on va dire, carte qui permet de programmer les doigts et de pouvoir faire fonctionner la main concrètement, de la façon dont on le souhaite, en fait. Il faut cette carte. Et puis ensuite, bah, des capteurs musculaires qu'on a trouvé sur Internet, pareil, que l'équipe a trouvé. Et donc au mois de juin, on a réalisé, on va dire, le premier prototype. Donc il y avait une main qui était imprimée, qui était toute reliée avec des capteurs et avec une carte. Et on a mis une batterie dessus et puis bah, moi je l'ai essayé et puis ça fonctionnait en fait. Donc j'arrivais à bouger la main.
Voilà. De tous les doigts ou juste quelques mouvements
En fait, un mouvement, fermer, ouvrir.
Okay.
Voilà.
Qu'est-ce qu'une carte Arduino en fait pour ceux qui sont...
Ouais, pour ceux qui sont novices,
voilà.
Un peu comme moi. Ouais, je suis un peu novice, hein. Pour moi c'est tout nouveau déjà ce monde-là. La carte Arduino, en fait, c'est un mini ordinateur qui te permet de gérer tout un tas d'informations en même temps, avec un processeur, avec une alimentation, et qui va permettre, par rapport à des entrées, donc nous en l'occurrence c'est la contraction d'un muscle, donc ça c'est en entrée, donc la carte reçoit l'information, et elle va permettre de gérer un certain nombre de sorties. Par le biais du code. Mmh. Voilà, par le biais du code. Et donc en contractant un muscle, on va dire, eh ben, on fait tourner les 5 moteurs. Voilà. Donc je contracte le muscle, en entrée, il y a le muscle, donc il reçoit l'information, et en sortie, il y a les moteurs. Voilà. Donc il y a le muscle qui se contracte, et puis qui va venir faire tourner les moteurs, et donc fermer la main.
Ok.
Voilà. Et ensuite, la carte, ça c'est vraiment la base, mais en la codant, en lui donnant un code, on va dire... Bon, eh bien, quand je contracte le muscle de telle manière, eh ben, je vais pas bouger les 5 moteurs, mais je vais en bouger que 3. Ce qui fait que je me retrouve à faire ça. Mmh. À bouger 3 doigts plutôt que 5, dans mon cas.
D'accord.
Mais ça sert à plein de choses. Il y a plein d'exemples d'applications. Par exemple, il y a une personne qui a conçu un système de capteur d'humidité qui est dans sa plante. Qui est dans une plante, et puis quand la terre devient sèche, le capteur envoie une information dans l'Arduino, et l'Arduino dit, bon ben je vais envoyer un SMS sur ton téléphone, voilà. Voilà, ouais. Donc tu reçois un message qui dit, j'ai soif. Et la plante, tu donnes à boire à la plante.
Ouais, on peut faire pas mal de choses avec, c'est un peu la base, la carte Arduino.
La carte Arduino, en fait, c'est le Lego technique d'aujourd'hui, quoi.
Ouais.
C'est ce qui va permettre aux jeunes de finalement, ouais, plutôt que de faire une petite voiture qui roule, ils vont pouvoir faire une voiture qui roule avec une sirène, avec des lumières qui clignotent, avec leur nom qui s'affiche, avec un milliard. En fait, c'est là d'un seul coup, on arrive à un potentiel énorme de construction, de fabrication. Il y a un autre exemple tout bête là que j'ai vu aussi. C'est quelqu'un qui a utilisé un petit parapluie de, tu sais, qu'on met sur les gâteaux de mariage là. Donc c'est un système de météo. Donc il y a une carte Arduino qui collecte la météo sur les 6 prochaines heures sur Internet. Et s'il va pleuvoir, il y a un petit moteur qui tourne et qui ouvre le parapluie. Donc si le parapluie est ouvert, c'est-à-dire que dans 4-5 heures, il va pleuvoir. Voilà. Donc c'est un... Voilà, tu vois.
Il y a de quoi s'amuser.
Voilà, il y a vraiment de quoi s'amuser.
Pour revenir à Bionic End, combien de capteurs vous placez sur l'avant-bras? C'est sur le bras ou l'avant-bras?
C'est sur l'avant-bras, ben, ça dépend du handicap, hein, évidemment. Oui. Donc moi, mon handicap, il est au niveau du poignet. C'est à ce niveau-là que j'étais amputé, donc on va dire sur l'avant-bras. Il faut 2 capteurs, en fait. Un capteur qui va permettre d'ouvrir, un capteur qui va permettre de fermer. Il pourrait y en avoir 5, un pour chaque doigt. Mm. Mais après, la complication, c'est au niveau physique.
Il y a un apprentissage.
Voilà, il y a un apprentissage. Et il faut distinguer différentes contractions sur le bras, différents endroits, pour faire la différence et donc contrôler différents moteurs.
Est-ce que c'est pas forcément intuitif, en fait, de contracter de différentes façons l'avant-bras pour pouvoir avoir 5 contractions différentes? J'imagine que c'est pas forcément... Ça demande un apprentissage,
ouais. Ça peut être compliqué, ouais. Donc là, on n'est plus dans le domaine de la technologie, on est dans le domaine de la personne elle-même. Voilà. Mais ces contractions pourraient très bien venir de contractions de l'autre bras pour donner une impulsion électrique.
Oui.
En fait, les capteurs pourraient être placés où on veut. Idéalement, ils sont placés le plus près du bras pour que ce soit le plus humain possible.
Oui. Et avez-vous travaillé en lien avec d'autres, je sais pas, avec des chercheurs par exemple, des laboratoires qui ont été intéressés par votre projet?
Oui, oui. Alors déjà, pour le projet, je travaillais avec donc les personnes du LabFab et des personnes autour. Donc, beaucoup d'ingénieurs finalement, enfin beaucoup d'ingénieurs, quelques ingénieurs. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'au mois d'octobre, on était à Rome, il y avait une Maker Faire. Donc c'est un rendez-vous de makers, de geeks, d'inventeurs, etc. Il n'y a pas que des gens dans l'électronique, mais... Et moi, j'en ai profité pour aller visiter donc, un centre de biorobotique qui donc, fabrique des marobots. Ouais. Et donc, j'ai rencontré ces chercheurs. C'est une équipe de 20 personnes. Ça s'appelle Prensilia. Et ils fabriquent, ils travaillent sur l'interface entre le corps et la machine. Donc, d'accord. Ils ont une main robot qui est très sophistiquée, qu'on ne peut pas répliquer, nous. Et aujourd'hui, ils essaient de la transformer en prothèse. Donc en quelque chose d'utilisable pour une personne amputée. Faut bien saisir qu'il y a vraiment une différence entre la main d'un robot et la main et une prothèse. La main du robot, elle bouge les doigts, mais elle va pas forcément avoir besoin de prendre un verre pour boire, parce que le robot, il boit pas. Alors que la prothèse, on lui demande de résister dans des conditions spéciales, spécifiques, d'avoir une autonomie électrique, qu'elle soit légère, qu'elle soit très résistante, etc. etc. Et surtout qu'elle soit esthétique. Donc c'est la différence entre les deux.
Et d'ailleurs pour l'autonomie, comment ça fonctionne? Vous avez une batterie, mais du combien de temps est l'autonomie
Sur notre prototype, oui. Donc comme tu peux l'entendre, c'est un prototype. Donc pour le moment, le système de batterie, c'est des batteries lipo, donc c'est des batteries utilisées dans le modélisme.
Okay.
Tout ce qui va être petit avion télécommandé, etc., etc. Pourquoi on utilise ça? Parce que c'est le moins cher et ça dure longtemps. Donc ça m'a permis de l'avoir sur moi, la prothèse, et de pouvoir me balader avec. Mais le prototype n'est pas fonctionnel pour le moment. Et on continue de travailler dessus.
Some hipsters on bikes. Imagine them on a ball in a stall with some dykes. If I liked a girl, who cares who you like? Pause when I write, it's hard not to be blind by the light lines. Recite the night, excite the fright. Say hi to kites. Ben Franklin White. This life is full of stars that burn too bright. On the shore, doing pure on Pauly Shore's your buddy. A little champagne and all the girls are bubbly. Every second makes sense and time is money. Where's Johnny? She said, let's talk, Moorhead, Minnesota. She purified her body in the lake, Minnetonka.
I'm wishing I was fishing with the kids, some new addition. I'm wishing I was fishing with the kids, some new addition. I'm wishing I was fishing with the kids, some new addition. I'm wishing I was fishing with the kids, some new addition. I'm wishing I was fishing with the kids, some new addition. I'm wishing I was fishing with the kids, some new addition.
Ronnie, Bobby, Ricky, and Mike. I need a tenderoni to blow me and my homies. Why you brag, how you know me to the phonies? Running lonely with my discarded cronies. I got my thoughts locked on can while you just six-man stand. Like Team Wolf, I serve my band. Since my birth, I've been the man. But lately, can't live with my band easy. On and on planes with a sound so greasy. Leaving such a mark, these niggas wanna be me. I be off up in the room, all these cats act like buffoons. Know it's true, Mr. Telephone Man, what's wrong with your lines? Those aren't big enough.
I'm wishing I was fishing with the kids, some new addition. I'm wishing I was fishing with the kids, some new addition. I'm wishing I was fishing with the kids, some new addition. I'm wishing I was fishing with the kids, some new addition. I'm wishing I was fishing with the kids, some new addition. I'm wishing I was fishing with the kids, some new addition.
C'était Champagne Champagne avec Fishing with New Edition. De retour avec Nicolas Huchet de Bionico Hand qui nous parle de l'avenir du projet.
Donc depuis le passage à Rome qui était quand même vraiment la confirmation du projet quoi. Parce qu'on a reçu un prix là-bas également. On a reçu un prix, on a eu... On a généré pas mal de... Enfin, il s'est passé pas mal de choses, quoi. Après Rome, en fait, voilà. Après l'Italie, après le passage en Italie, ce qui s'est passé, c'est que le projet, il s'est divisé en plusieurs parties. Donc, on a toujours le projet de main robot, de prothèse, donc en open source, avec les concepteurs. Donc, on a Gaël qui est à Paris, qui travaille sur son robot et aussi sur la main. Et on a les scientifiques, techniciens, ingénieurs qui sont sur Rennes ou autour... qui peuvent se greffer sur la partie, quoi. D'ailleurs, c'est ouvert à tout le monde. Hein. On est en recherche de techniciens, ingénieurs qui seraient intéressés.
Voilà, c'est un projet participatif, n'importe quoi.
C'est un projet, exactement.
Si quelqu'un a des compétences qui peuvent vous être utiles.
Voilà. C'est vraiment un projet participatif. Il faut juste aller sur soit le site du LabFab, soit directement sur Bionico Hand ou envoyer un email. Et vraiment, oui, d'ailleurs, on recherche des personnes, définitivement, c'est clair. Ça, c'est la première partie, la main robot. La deuxième... c'est de créer une main mécanique, donc sans électronique.
D'accord.
Voilà. Avec qui je souhaiterais, donc, travailler avec des écoles, peut-être l'ES Cachin, ou, tu vois, des écoles d'ingénieurs qui pourraient participer à ce projet, si ça pouvait rentrer dans un projet d'études. Une main mécanique, en fait, qui n'utilise ni moteur ni électronique. Pourquoi ? Parce que comme le but quand même de cette main, c'est d'en faire une vraie prothèse pour personnes amputées et de faire un partenariat avec une ONG comme Handicap International ou quelque chose comme ça. Une prothèse myoélectrique avec des moteurs, etc. Dans un pays, je sais pas, on va prendre un pays, le Kenya ou Haïti ou des personnes où il n'y a pas forcément des laboratoires et des centres de maintenance autour, si la main tombe en panne, il va falloir peut-être attendre 3 mois pour la réparer, et puis dans des conditions peut-être poussiéreuses, etc., la main tombera en panne plus rapidement. Donc ça, c'est le deuxième axe, c'est de fabriquer une main mécanique,
d'accord,
en fait, entièrement mécanique. Mais très perfectionnée, donc qui permet d'avoir plusieurs mouvements, et à un coût pareil très bas, en open source si possible. Ça, c'est vraiment le deuxième axe qui est très important, d'accord, quoi. Et le troisième axe, c'est de récupérer le premier prototype qu'on a utilisé, de le réparer, parce qu'il est dans un état un petit peu abîmé après le voyage dans les valises, et d'en faire un projet pédagogique pour les écoles, pour présenter comment ça fonctionne, expliquer ce que c'est qu'un Arduino, et puis donner une vision, avoir une vision pour une personne valide, avoir une vision de ce que ça peut être d'être une personne amputée, et comment on contrôle une prothèse. Donc il y a 3 axes, projet de main robot, main mécanique et projet pédagogique.
Et pour la main mécanique, vous avez des idées déjà du fonctionnement, ouais.
Ouais, moi j'en ai plein, ouais. J'ai plein d'idées, ouais. Et d'ailleurs, là, je vais commencer à me former sur SolidWorks,
oui,
qui est un logiciel de CAO, de conception, pour commencer tout seul pour le moment la conception de la main, quoi. Mais oui, j'ai plein d'idées, ouais. Et d'ailleurs, je fais des recherches sur Internet pour voir si ça n'existe pas déjà, parce que ça me paraît simple. Ça me paraît pas très compliqué à mettre en place. Mais comme le handicap de la main, c'est quelque chose... je peux pas dire que c'est rare, mais c'est minime comparé à certaines maladies ou d'autres handicaps. Je pense pas que ce soit délaissé, mais je pense que la recherche n'a jamais forcément poussé à fond la chose pour qu'il y ait une solution simple et efficace. Et je pense que c'est pareil dans plein de domaines. Dans plein de domaines de la santé, il y a des solutions simples et efficaces, mais elles sont pas forcément mises en place parce que je pense qu'au niveau des labos et du politique et de l'économie, ça dérangerait un petit peu que les gens puissent se soigner à moindre coût, quoi. Ça, c'est une réalité aussi, hein, je veux dire, voilà, faut pas rêver. Et donc, c'est un peu un moyen un peu de faire de la résistance, quoi. Et de dire vraiment, de pas tomber dans l'hypocrisie, de dire on veut aider les pays pauvres, et en fait, derrière, il y a tout un business. Mais de dire, on va aider les pays pauvres, ouais, parce qu'on fabrique quelque chose qui coûte normalement 2000 euros, et je parle de la main mécanique, et là qui va coûter peut-être 300 euros, quoi. Voilà.
Oui, parce que la plupart du temps, les prothèses sont assez chères. Les prothèses qu'on trouve sur le marché, entre guillemets, en ce moment, elles sont difficilement accessibles.
Ouais, donc une prothèse myoélectrique, donc une prothèse qu'on peut contrôlé, utilisé par le biais des contractions musculaires, donc la main robot entre guillemets, ça coûte effectivement entre 20 000 et 70 000 euros pour quelqu'un qui est amputé de la main, comme moi. Donc si on prend en charge, si on inclut les garanties, les batteries, le chargeur, le gant de recouvrement, l'emboîture, le moulage et tout ça, ça fait, on peut arriver à 70 000 euros suivant le type de main. Si quelqu'un est amputé au niveau du coude, on peut quasiment doubler ce prix-là, quoi.
Donc une des finalités de votre projet, ce serait de créer une main en fait accessible.
Le but,
plus
c'est
de personnes.
C'est ouais. Ça. Le but, c'est de démocratiser ce handicap. C'est ouais. De pas en faire quelque chose. La photo de la personne avec le moignon et c'est tout triste. Il faut l'aider. C'est vraiment de dire voilà, il y a ça c'est fait quoi. Si jamais il y a une personne qui a un accident et qui a pas les ressources financières, au moins elle aura pas ce problème de dire j'aimerais, mon rêve, c'est d'avoir une main, c'est faisable, quoi.
Et donc, le but, ce serait de la commercialiser, au final, si possible.
Ouais, pourquoi pas, ouais. C'est sûr, si on arrivait à... Le jour où on arrive à une solution vraiment efficace, ce qu'il faut, c'est que ce soit... il faut que ce soit fiable.
Oui.
C'est la chose la plus importante. Moi, je sais, parce que j'ai une prothèse. Donc, quand elle tombe en panne toutes les trois semaines, j'ai plus envie de la porter, quoi. Donc, si c'est fiable... et que ça répond aux normes, moi après, pourquoi pas commercialiser, ouais. J'en suis pas là, mais bien sûr.
Oui, c'est préférable d'être fiable plutôt que d'être sophistiqué.
Ouais, alors c'est pour ça qu'il y a ce projet de main mécanique qui est arrivé, parce que la main robot, en fait, ça plaît pas mal aux ingénieurs, et l'Arduino, et faire une main robot, Terminator et compagnie, c'est normal, quoi. Et les ingénieurs, ils sont beaucoup tournés vers l'aspect technique. Donc on va mettre ça, on peut faire ça, on peut mettre des capteurs au bout des doigts pour sentir la chaleur et tout. C'est des super bonnes idées. Mais en tant qu'utilisateur, j'ai jamais eu ça pour le moment et je m'en sors bien.
Oui.
Ça fait partie de la recherche parce qu'aujourd'hui la recherche elle en est à ce niveau-là, c'est-à-dire le feedback, c'est-à-dire le toucher. On en est vraiment là, ouais, les laboratoires travaillent vraiment là-dessus. Donc le fait de prendre un objet, de savoir s'il est dur ou mou, chaud ou froid, etc. Mais c'est encore de la recherche, voilà. Ça, c'est la finalité. Quand on aura passé toutes les autres étapes, moi, je veux bien arriver là. Mais je veux pas empêcher, j'irai pas, surtout pas ralentir les personnes qui ont de l'engouement pour ce genre d'idée, quoi. Qui veulent dire, moi, je veux développer un capteur qui permet d'avoir le toucher. Je suis complètement d'accord. Mais je veux quand même assez rapidement, mettre en place une solution de main mécanique facilement utilisable et facile d'apprentissage, voilà. Parce que si par exemple on appareillait une personne qui a jamais eu de prothèse de sa vie et on lui dit tu vois là t'as des capteurs, enfin je veux dire c'est comme avec 15 000 fonctions il va rien comprendre, quoi. C'est comme donner une voiture perfectionnée à quelqu'un qui a même pas le permis de conduire, voilà. Donc c'est moi d'abord de partir de quelque chose de simple, vraiment une solution pour les pays du tiers monde, on va dire pays du tiers monde, et personne n'utilisant pas de prothèse myoélectrique, parce qu'il y a un autre dernier paramètre à prendre en compte, c'est que porter une prothèse, ça peut être sur tous les amputés de la main, tout le monde ne porte pas de prothèse, hein.
Oui.
C'est vraiment un choix personnel de dire ça m'aide dans ma vie de tous les jours, mais si je pouvais, si j'avais le choix, enfin c'est pas que j'ai pas le choix, mais je préférerais ne pas l'en avoir, quoi. Je suis presque mieux sans, quoi.
Oui.
Mais avec, ça me permet d'avoir quand même deux mains, quoi. Ensuite, une prothèse myoélectrique, c'est lourd et c'est pas forcément si évident que ça à utiliser. Alors qu'une prothèse mécanique, on va l'utiliser, par exemple, on va réussir à la faire bouger par le biais du mouvement de l'épaule.
Oui.
Voilà.
Ok.
Donc ça va pas être aussi intuitif, mais ça peut être plus simple.
Oui, j'ai pas posé de question justement sur le poids. Combien pèse une prothèse ? Par exemple, votre prototype, combien il pèse ?
Notre prototype, il pèse vraiment pas lourd puisque il a été imprimé en ABS, en plastique d'imprimante 3D, avec 5 servomoteurs de modélisme qui pèsent chacun, je sais pas, 30 grammes. On arrivait à un poids, on l'a pas pesé, hein, mais il était pas lourd, il était très léger. Et sinon, une prothèse, ça pèse, celle-ci pèse, je pense, 500 grammes, justement, ça pèse un peu, ouais.
Comment elle se fixe ?
Ah, c'est une très bonne question, ça. Je suis content qu'on en parle. Donc ça tient en fait par le biais de... Bon, il y a plusieurs moyens de faire tenir une prothèse. sur un bras, il y a plusieurs méthodes. La méthode d'aujourd'hui que moi j'ai, c'est une méthode de vide d'air, par vide d'air. C'est-à-dire que je mets la prothèse, je rentre dedans, pareil, avec mon bras, je la mets, voilà. Et puis il y a un petit gant de recouvrement, ce qu'on appelle un manchon que je mets par le bras qui va empêcher, que je mets ensuite sur mon bras, qui va empêcher l'air de re-rentrer. Okay. Donc ça empêche la prothèse de tomber. Donc ça, c'est une méthode aujourd'hui qui n'est pas super au point. C'est pas terrible, terrible. Il y a une nouvelle méthode qui voit le jour, là, qui est là depuis quelques années. Et je remercie par avance la Sécurité sociale de prendre en charge très bientôt ce genre d'opération. C'est l'ostéo-intégration, ça s'appelle.
D'accord.
C'est un insert qu'on met dans l'os, en fait.
Ok.
Voilà. Donc, ça fait peur, puisqu'on va mettre...
Puisqu'une opération...
C'est une opération, on va mettre quelque chose dans l'os, quoi.
Oui.
Peut-être que c'est dangereux, peut-être, j'en sais rien. On n'a peut-être pas assez de recul là-dessus. En tout cas, ça marche avec les petits handicaps. Quelqu'un qui va perdre un doigt, on va lui mettre un insert dans l'os, on va lui mettre un faux doigt. L'avantage de ce genre de méthode, c'est qu'on n'a plus toute une partie, justement, ce qu'on va appeler l'emboîture, ce qui se met sur l'avant-bras. Ouais, elle va être supprimée, cette partie-là.
Oui, il y aura juste la prothèse.
Il y aura juste la prothèse, poignet, ouais. D'accord. Donc je pense que ça, c'est la solution du futur, un peu.
Ok. Donc peut-être développer ça également pour votre prothèse mécanique.
Je pense pas. Moi, je suis pas. Je pense que là, on est quand même dans la. Bah, là, on est dans la médecine, quoi. On est plus vraiment dans la technologie, quoi. Il y a un centre en France qui le fait, c'est à Montpellier, ouais, qui fait ce genre d'opération. Quand je dis dans le futur, je pense que c'est dans 10 ans, quoi.
Oui, d'accord.
Ça existera. Mais à partir du moment qu'on a le plus important, c'est de faire une main fiable. Voilà. C'est de faire quelque chose de fiable. Ça, c'est le plus important, avec les mouvements souhaités. Ça, c'est... Voilà. Ensuite, d'adapter sur un système d'ostéo-intégration ou un système par vide d'air, ça, c'est de l'adaptation. C'est pas très compliqué à mettre en place.
Juste sur le coût, combien elle est revenue, le prototype ?
Le prototype, donc, bah, il a coûté... là, il a dû coûter 200 euros, je crois. Oui, parce que l'impression, ça a coûté quasiment, je sais pas, 10 euros peut-être de pièces.
Ouais.
Si on prend en compte toutes les pièces ratées qu'il a fallu refaire. Et après, on a mis en fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'après, on a passé des fils de cerf-volant dans les doigts. Un contire qui va fermer le doigt et un autre contire qui va ouvrir le doigt. Donc ces deux fils sont ensuite fixés sur une poulie. Chacun a une extrémité de la poulie, et cette poulie, elle est fixée sur un servomoteur. Donc quand le moteur tourne dans un sens, dans le sens horaire, ça va tirer un des fils, ça va fermer le doigt. Quand le moteur tourne dans le sens anti-horaire, dans l'autre sens, ça va tirer l'autre fil et ça va rouvrir le doigt. Donc ça, c'est le fonctionnement, voilà. Le prototype, donc ça, en tout, on a eu ça, plus la carte Arduino qui coûte environ 20 euros, plus les capteurs, donc il a fallu deux capteurs qui coûtent chacun 50 euros, je crois. C'est à peu près les moins chers qui existent. On arrive, je pense, à un total, oui, de 200 euros, quoi. Donc, ça rend pas cher. Le prototype, donc le prochain, il va être vraiment différent. Voilà, c'est-à-dire qu'il y aura plus de système de fil. Donc, on s'est rapidement rendu compte que le système de fil, c'est pas fiable. Donc, Gaël, du robot InMove, a mis en place un système d'engrenage, en fait, avec des poussées mécaniques. Donc, finalement, maintenant, c'est des actuateurs qui sont dans le doigt, qui font que quand... La première phalange part en rotation, elle entraîne les deux autres qui vont fermer le doigt. Donc ce qui va se passer, c'est que les moteurs vont être intégrés dans la main.
Ok.
Voilà. Les moteurs seront intégrés dans la main. Et puis, il y aura peut-être plus ces capteurs, les fameux capteurs, sur le bras. Ça va être remplacé par un bracelet GetMio. Donc le bracelet GetMio, c'est un gros bracelet qu'on met sur le avant-bras et qui, lui, justement... arrive à capter les différentes activités musculaires du bras suivant le type de mouvement qu'on fait. Si on plie le poignet, si on serre le poing, si on tend la main, voilà. Et donc lui, il va permettre de différencier les mouvements de la main.
Oui, donc beaucoup plus précis. Quoi.
Bah ouais, puis surtout plusieurs mouvements en fait.
Ouais.
On va arriver peut-être à pouvoir faire 7 mouvements en fait. C'est un peu c'est le prochain proto quoi. Je pense qu'il va être super, quoi. Je pense qu'il va être vraiment, il va y avoir vraiment une différence énorme. Donc plutôt que d'avoir Simplement, on aura une carte Arduino cette fois et avec un chipset, donc c'est l'interface qu'on rajoute en plus, en Wi-Fi peut-être, qui va permettre de recevoir les informations du bracelet. Non, le bracelet va envoyer les informations Wi-Fi qui vont être récupérées sur la carte Arduino. Et donc après, avec le code, le code permettra de dire bah, par rapport à tel mouvement, je veux faire telle chose, quoi.
Ça va demander une miniaturisation assez importante si tous les moteurs, tous les capteurs sont présents dans la main.
Alors si vous allez sur le site de InMove, InMove, vous verrez la main, d'ailleurs que je vais bientôt mettre sur le blog. Et le prototype existe déjà, il est déjà conçu. Ça prend de la place, effectivement. Et d'ailleurs c'est pour cette raison qu'il a décidé de supprimer le petit doigt. Donc, le prochain prototype n'aura pas 5 mais 4 doigts pour raison d'esthétisme, effectivement. Parce que si c'est... Parce que ça fait une main très grosse. Donc pour une femme, par exemple, ce serait...
Disproportionné, ouais.
Voilà, c'est ça.
Au reste du corps, ok. Donc c'est l'évolution, on perd l'usage d'un doigt.
On perd l'usage d'un doigt pour gagner en esthétisme et en place. Donc à voir après dans la vie de tous les jours, en fait. C'est vrai que c'est intéressant de voir comment la technologie peut évoluer, parce que quand on voit les recherches qu'on fait sur les... Donc par exemple sur une main robot, on va toujours faire 5 doigts. Parce que la nature nous en a donné 5 et qu'on a besoin des 5. Mais finalement, c'est vrai que le quatrième doigt et le petit doigt sont liés entre eux, quoi. Et si on essayait avec 4, en fait, qu'est-ce que ça changerait finalement vraiment dans la vie, quoi? Qu'est-ce que ça changerait, en fait? C'est ça qui est intéressant, quoi. Avec une main robotisée, qu'est-ce que ça va changer? À part l'esthétisme, est-ce que dans la vie pratique, est-ce que ça va vraiment gêner, en fait? Ça, c'est intéressant à voir, parce que finalement, on n'aura peut-être pas besoin. Que j'aurais pu te faire l'historique de pourquoi... Pourquoi on en est là aujourd'hui avec les prothèses, quoi. Donc une prothèse électrique, ça existe depuis les années 70. Donc c'est une pince, comme un Playmobil. Voilà. Des années 70 jusqu'en 2007, c'était la même chose.
Il n'y a pas eu de progrès.
Il n'y a pas eu de progrès, voilà.
En 30 ans, plus de 30 ans.
Voilà. Et en 2007, paf, il y a une société qui arrive, écossaise, qui s'appelle Touch Bionics, et qui sort une main avec 5 doigts motorisés. Donc on passe d'une main de Playmobil à une main de Terminator, quoi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pourquoi il y a eu... Et 2 ans plus tard, il y a une autre société, Bing, qui sort aussi une main à 5 doigts motorisés. Et là, on est en 2013, et il y a une troisième société, les leaders, donc, Autobock, qui sort une nouvelle main, Michelangelo, une main super top, qui permet de faire 4 mouvements super bien. Pourquoi il y a eu ça ? Parce que suite à la guerre en Irak, Afghanistan, tout ça, il y a eu énormément de personnes... qui sont revenus sans bras, sans jambes. Et pourquoi il y en a eu plus ? Parce que comme les soldats étaient plus protégés, il y a eu beaucoup moins de morts, il y a eu beaucoup moins de pertes humaines, plus de blessés. Donc le DARPA, qui est le centre de recherche et développement de l'armée américaine, ils ont décidé d'investir beaucoup d'argent dans le développement pour la robotique, bras et jambes, etc. Et c'est comme ça qu'en 2007 sont sortis, depuis 2007, sortent des nouvelles mains robots. Donc le projet, il vient de ça surtout aussi, quoi. C'est que moi, quand j'ai eu mon accident, il y avait que cette main, quoi. Moi, je voyais, ok, je me disais, je passais ma vie avec ça. Il y avait rien de mieux. Et c'était nul. Je trouvais ça nul. Quand j'ai vu ça, j'ai fait, waouh, c'est pas possible, quoi. J'ai vu, c'est vraiment nul, quoi. C'est vrai, je trouvais ça moche. Honnêtement, je trouvais ça pas bien.
Et quand t'as vu les mains, les autres mains, tu t'es dit, voilà. Bah, il est possible de faire autre chose, et finalement, il est possible d'avoir.
Quand j'ai vu ça, j'ai fait, waouh, j'ai halluciné. Après, j'ai su que c'était en Écosse. Donc c'était pas le bout du monde. Et après, bah, c'est là que j'en ai parlé avec mon prothésiste.
D'accord.
Comment je fais pour l'avoir ? Bah oui, mais c'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Ah, d'accord. Et est-ce qu'il existe des moyens ? Et c'est là que j'ai commencé à faire ma recherche pour trouver des financements. Donc moi, ce qui se passe, c'est que là, maintenant, je suis à la recherche de financement pour avoir une de ces prothèses. Voilà, déjà. Pour moi, déjà, améliorer mon quotidien, quoi. Voilà pourquoi depuis 5 ans, le handicap, en fait, il fait un boom technologiquement. En fait, il y a beaucoup d'améliorations. Donc, le projet, c'est ça. C'est dire, ok, voilà la recherche, ce qu'elle nous donne. Voilà les produits qui sortent, destinés aux riches, on va dire, aux personnes aisées. Nous, on veut démocratiser la chose. Ok, c'est cool, vous avez fait ça. Ben nous, maintenant, on va le répliquer, puis le faire pas cher. On va faire un générique, en fait. On va faire une main générique. Voilà. Et donc, il y a plusieurs projets similaires dans le monde. Donc, de toute façon, c'est sûr, la main robot à moindre coût, la prothèse à moindre coût, c'est plus qu'une question de temps.
Quoi. L'entretien avec Nicolas Huchet touche à sa fin. Comme vous avez pu le constater, le projet BionicoN est une belle preuve de partage des savoirs et des compétences, en plus de servir une noble cause. D'ailleurs, si le projet vous intéresse, vous retrouverez toutes les informations relatives au projet ainsi que le podcast de l'émission sur radiocampusrennes.fr. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau Labomatique.